VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, les résultats des élections communales du 20 novembre donnent le parti au pouvoir perdant dans 10 des 19 communes urbaines du pays. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Avec les résultats des communales du dimanche 20 novembre, on constate que le Rassemblement pour le Mali, parti au pouvoir, a perdu dans plusieurs localités. À Bamako, le RPM a perdu dans son fief de la capitale, en commune 4 du district de Bamako, au détriment du parti Yelema. Les autres grosses pertes du RPM ont été enregistrées au niveau des communes urbaines, au nombre de 19. 10 seront gérées par le parti IRD de l'opposant Soumaïla Cissé, dont le parti a gagné dans plusieurs localités du pays. Le RPM a perdu à Mopti, Kati, Kita, Bougouni, Kouchala, San et surtout à Sikasso, l'un des plus grands bastions électoraux du pays. Mieux, la plupart des responsables du parti au pouvoir, qu'ils soient ministres, présidents de l'Assemblée nationale ou des directeurs nationaux, ont tous perdu presque dans leurs localités respectives. Selon bon nombre d'observateurs, le scrutin du dimanche 20 novembre ressemble à une sanction pour le régime en place, car c'est le parti IRD de l'opposant Soumaïla Cissé qui se positionne très bien pour la gestion des communes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Nigeria, Amnesty International accuse les forces de sécurité nigériennes d'avoir réprimé dans le sang des manifestations pacifiques pro-Biafra dans le sud-est du pays, entraînant la mort d'au moins 150 personnes entre août 2015 et août 2016. Pour Samira Daoud, la directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'usage de la force a été disproportionné.
C'est clairement une opération visant à semer la terreur et à réprimer de manière meurtrière. Il ne s'agit pas de cas isolés, il ne s'agit pas de bavures, il s'agit véritablement d'ordres qui auraient été donnés. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté sur le terrain, où les militaires sont venus pour clairement finir avec les manifestants.
Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Cameroun voisin, une femme kamikaze s'est fait exploser ce matin dans la ville de Mora, dans la région de l'extrême nord, où des djihadistes nigérians de Boko Haram mènent régulièrement de telles actions. Une seconde kamikaze, selon des sources militaires, a été tuée par l'armée avant d'actionner sa charge. Les précisions de John Lyndon.
Autour des 6h30 GMT, deux jeunes kamikazes se sont introduites dans la ville de Mora dans le but de se faire exploser, mais elles ont été repérées, a déclaré sous couvert d'anonymat un responsable militaire. Une des kamikazes s'est faite exploser, blessant la seconde qui finalement a été abattue par des militaires du bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite de l'armée camerounaise en première ligne dans la lutte contre les djihadistes nigérians. Le jeudi est traditionnellement jour de marché à Mora, ville stratégique dans le dispositif de lutte contre Boko Haram. Elle abrite notamment le quartier général du premier secteur de la force multinationale mixte, composée d'une demi-douzaine de pays engagés dans la lutte contre Boko Haram.
En RDC, le gouverneur du Tanganyika a appelé au calme ce jeudi après de nouveaux affrontements meurtriers entre Bantous d'ethnie Luba et des Pygmées de l'ethnie Twa dans cette province du sud-est du pays. Joint par téléphone à Kalemie par l'AFP, Kalemie est la capitale de la province, Richard Ngoyi Kitamala a reconnu qu'il y avait régulièrement des affrontements sporadiques entre Pygmées et Bantous dans la région. Mais il a qualifié de rumeur les informations sur une tuerie dans la localité de Mouswaki. José Boulaboula, secrétaire provincial adjoint des jeunes du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, formation politique du président congolais Joseph Kabila, confirme qu'il y a eu mardi à Mouswaki une attaque des Pygmées et des représailles des Luba le lendemain. Des actions qui ont entraîné mort d'homme, selon M. Boulaboula. Au Burundi, le gouvernement burundais a déclaré ce jeudi ne pas se sentir concerné par le travail que vont faire les trois membres de la commission d'enquête des droits de l'homme nommée mardi par Choi Kyong Lim, président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les intéressés, un Algérien, un Béninois et un Britannique, ont pour mandat d'entrer en contact avec les autorités burundaises et d'autres parties prenantes pour leur apporter l'expertise nécessaire pour l'amélioration des droits de l'homme et de la lutte contre l'impunité au Burundi. La réaction du ministre burundais des droits de l'homme, Martin Nivyabandi, lors d'une conférence de presse aujourd'hui.
Le gouvernement n'a pas été partie prenante. On lui avait demandé de participer à la désignation d'un membre de la commission. Mais le groupe des ambassadeurs africains à Genève a décliné. Il a demandé au président de le faire comme il avait fait pour les deux. Donc le travail qui sera fait par la commission ne va pas engager le Burundi.
Martin Nivyabandi, ministre burundais des droits de l'homme, propos recueillis par notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Politique américaine, le président élu Donald Trump a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation en nommant mercredi au poste d'ambassadrice à l'ONU Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, et une autre femme, Betsy DeVos, au ministère de l'Éducation. Le point avec Anne Albertson.
En nommant Nikki Haley, 44 ans, gouverneure républicaine de Caroline du Sud, M. Trump semble vouloir élargir sa base. Madame Haley l'avait critiquée avec virulence lors des primaires et pris position pour l'un de ses rivaux, Marco Rubio. Aux États-Unis, l'ambassadeur à l'ONU, poste occupé depuis 2013 par Samantha Power, est membre de l'administration et donc l'un des principaux collaborateurs du président. Madame Haley, dont la nomination devra être approuvée par le Sénat, sera chargée à l'ONU de suivre notamment les crises en Syrie et en Ukraine, des dossiers sur lesquels Donald Trump a affirmé vouloir davantage de coopération avec la Russie. Donald Trump a aussi nommé la femme d'affaires milliardaire et philanthrope Betsy DeVos, 58 ans, comme ministre de l'Éducation. La nomination de Ben Carson au logement devrait être annoncée prochainement, a lui-même indiqué le neurochirurgien à la retraite sur sa page Facebook. Donald Trump, en ce moment en Floride pour la fête de Thanksgiving, va profiter de ce long week-end pour peaufiner la constitution de son équipe et pourvoir trois postes clés. Le chef de la diplomatie, le secrétaire à la défense et le secrétaire au trésor. Selon les médias américains, Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle en 2012 et féroce contempteur de Donald Trump, reste en course pour se voir confier les affaires étrangères.
Par ailleurs, les Américains célèbrent aujourd'hui le Thanksgiving, la journée d'action de grâce, jour férié chômé où on se retrouve en famille et entre amis pour partager la dinde traditionnelle. Dans la région de Washington, des volontaires participent à cette occasion à un dîner spécial d'action de grâce avec des réfugiés arrivés récemment dans le pays. Elizabeth Turner était parmi eux et son reportage est rendu ici par Lionel Gaïma.
C'est un Thanksgiving assez particulier qui réunit à Arlington des habitants et des réfugiés arrivés récemment dans ce quartier de Virginie, non loin de la capitale américaine. Partager un repas pour une fête typiquement américaine. Kildiz Tesfaye est arrivé aux États-Unis grâce à une ONG, le Conseil éthiopien au développement, qui aide les réfugiés à trouver du travail, des écoles et des endroits pour vivre.
Je suis vraiment contente de travailler avec les réfugiés.
Ce repas de Thanksgiving vise à souhaiter la bienvenue aux réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Le but, c'est de leur apporter l'amour et montrer que les États-Unis, c'est l'opportunité. L'Amérique est pour tout le monde, c'est ça le programme du dîner.
Être autour d'une table pour ce dîner de Thanksgiving est en quelque sorte un buffet multiculturel. Sadiq Ali Haidari est venu du Pakistan avec sa fille âgée de 19 ans. Je crois que c'est mon cinquième ou sixième Thanksgiving. Rayonnant de sourire, Chandra est originaire du Sri Lanka.
C'est très sympa. Je vois beaucoup de gens venus de pays différents et une nourriture différente.
Il n'y a pas de débat politique à ce dîner. Seulement les gens à table pour apprécier la bonne compagnie de la nourriture. Sarah Zulo est membre de l'ONG Conseil éthiopien au développement.
Lorsque des personnes partagent un plat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soudain, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que de différences.
Embrasser ces différences est cela qui a permis à l'ONG de tenir plus de 30 ans. Le docteur Tesha Etefera, président et fondateur de l'ONG, Conseil éthiopien au développement. Notre rôle dans le processus d'installation des réfugiés est de les intégrer à la communauté. Il n'y a pas meilleur moyen que Thanksgiving comme partie de ce processus. Ensemble, ces familles qui rêvent d'un avenir meilleur aux États-Unis rompent le même pain, suivant une tradition bien américaine.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.